Bonjour. La semaine dernière, j'ai fait une digression dans ma digression, dans mes digressions. En effet, voulant aborder la question que je posais il y a 15 jours, comment ce mystère de grâce, de la guérison de la condition humaine, de sa redécouverte, de sa condition de créature aimée et faite pour aimer comme Dieu nous aime, dans la condition du mariage en particulier, comment ce mystère de grâce s'accomplit-il et à quel prix il est possible, j'ai commencé à essayer de vous faire toucher du doigt ce qu'était l'intériorité et surtout comment notre civilisation du spectacle, dans l'exhibitionnisme qu'elle engendre, qu'elle provoque, risquait de détruire complètement l'expérience de l'intériorité et du secret et de la confidence. Puisque même des techniques psychologiques qui reposent sur le tête-à-tête et sur le secret, comme ce que met l'entretien et la cure psychologique, deviennent maintenant elles aussi objets de spectacle. Et je crois que les psychologues devraient être aussi sévères à ce sujet que je peux l'être, quant à moi, par rapport à l'expérience, au champ spirituel, à l'expérience spirituelle. Car il est évident qu'à ce moment-là, les conditions de l'entretien psychologique sont complètement perturbées et changées. Et donc n'ont pas la même vertu, ni la même force, ni la même puissance d'aide, d'assistance que l'on peut attendre d'eux. Alors, en traitant de cette question comme je vais le faire, en vous parlant à la radio, j'ai bien conscience que je suis en train de, moi aussi, peut-être, de transgresser ce champ de l'intériorité. Sauf que je ne suis pas en train d'interroger quelqu'un, ni de lui parler comme nous nous parlerions si nous étions seuls à seuls. Je vous parle à vous tous qui m'écoutez, et je vous parle au nom de ce que l'expérience m'a appris, ce que j'ai pu comprendre de la condition humaine, des confidences que j'ai pu recevoir, mais que je ne vous raconterai pas. J'en tire une leçon, j'en reçois une sagesse ou une certaine compréhension, et c'est à ce titre-là que je peux parler. Je suis comme quelqu'un qui a voyagé, qui a beaucoup vu, qui a beaucoup entendu, et qui n'aurait ni d'appareil de photo, ni d'enregistreur, ni de caméra, et qui n'essaierait même pas de décrire les paysages ou de décrire les êtres qu'il a rencontrés, mais en tire une certaine somme d'expérience, qui est l'expérience de tant et tant de vies humaines. Voilà un peu comment je veux vous parler. D'où, pardonnez-moi si c'est moins croustillant que certains autres propos, mais je le fais délibérément, parce que je ne pourrais pas faire autrement. Car quant à moi, par mon ministère, par ce que Dieu m'a demandé et donné de faire pour vous, et à votre service comme prêtre, ainsi que tous mes frères prêtres, nous ne pouvons pas entrer dans ce jeu-là. Jamais vous ne devrez voir un prêtre qui entrerait dans ces reality shows, dans cette espèce de spectacularisation de l'intimité et de l'intériorité des gens. Alors, venons-en, si vous voulez, maintenant à l'un des problèmes du couple. C'est pas le seul, enfin c'en est un, qui est celui de l'engagement irrévocable et de la fidélité. Aujourd'hui, ça paraît une chose tellement fragile et fragile et parfois engendrant des situations insupportables que beaucoup sont comme blessé d'avance, et refuse pour ne pas être déçu, certains, ou pour ne pas être ligoté pour d'autres, refusent à s'engager et à engager leur liberté irrévocablement à l'égard d'un conjoint, prétendant laisser à chacun sa liberté de mener sa vie comme il l'entend et de défaire les liens précaires noués pour qu'un homme et une femme se retrouvent. J'ai admiré récemment avec stupeur, et j'avoue avec un peu d'effarement, la publicité d'une compagnie aérienne qui fait une réduction assez considérable pour les couples. Bon, très bien. Mais il précisait que la définition du couple, ça consistait seulement à se présenter à deux. Alors, disons que pour un voyage groupé de deux personnes, il y a une réduction de 50%, ça serait plus honnête. Mais l'argumentation, c'était de dire, ou bien vous êtes marié-femme, ou bien si vous êtes un autre couple, même un couple simplement, vous avez droit à la même réduction. Ce qui m'a paru curieux dans cette publicité, c'est la présentation. Que deux voyages groupés obtiennent une réduction, après tout, c'est de bonne guerre commerciale. Et vous voyez comment ces publicitaires qui, au fond, font leur métier, épousent les préjugés d'une époque. Alors, pourquoi cette crainte et comment essayer d'y faire face? Il est vrai, comme je l'ai déjà dit bien souvent depuis quelques semaines et bien avant aussi, que les contraintes sociales, ceci en est un exemple, ne jouent plus en faveur de la stabilité du couple. Le conformisme, que j'ai longuement évoqué, joue à l'inverse. Ce sont les couples fidèles, et fidèles jusqu'au bout, qui parfois paraissent étonnants, et souvent sont moqués. Non seulement dans la comédie de boulevard, mais si on faisait un inventaire statistique des situations telles qu'elles sont décrites dans les films, dans les romans, dans les bandes dessinées, dans toute la représentation de la vie sociale telle qu'elle nous est fournie par les différents moyens, les différentes œuvres, qui enchante l'imaginaire ou occupe les yeux et les oreilles de nos contemporains, on verrait que le stéréotype, le modèle le plus courant, est précisément celui de la précarité du couple, de son instabilité, de son inconsistance. Parfois avec des observations extrêmement amères et difficiles. Et puis, il y a les faits. Les faits, eh bien, c'est des gens qu'on peut rencontrer qui, après parfois une rencontre intense, un amour véritable, un début de vie de famille, se trouvent abandonnés par un conjoint. Parfois très tôt, parfois plus tard, parfois alors que la vie a déjà tourné la page, et où inexplicablement l'un des deux s'en va. Comme si brusquement plus rien ne l'attachait, ou comme s'il était attiré, happé par un autre, une autre, lâchant tout, enfant, foyer et conjoint, et laissant derrière lui, sans remords, puisque ça se fait, puisque tout le monde le fait, les débris d'un bonheur dont ceux qui restent peuvent se demander s'il avait été une illusion ou une réalité. Alors, que penser de tout cela? Eh bien, tout simplement qu'il n'y a pas de vie de couple qui ne repose, qui puisse reposer seulement sur le sentiment ou les habitudes ou l'attrait, car tout cela ne forme pas encore l'engagement d'une liberté. Il n'y a pas de couple qui ne rencontre, dans cet idéal de vie commune et de fidélité, des épreuves considérables. Pourquoi me direz-vous? C'est la nature même des êtres humains de ne pouvoir aimer véritablement, c'est-à-dire ou s'oublier pour un autre. Ça peut se faire à certains moments de la vie dans l'allégresse, dans la joie, pour toutes sortes de raisons affectives, et à d'autres moments, ça devient une épreuve. Quand Sartre, selon une formule qui eut son heure de célébrité, dit que l'enfer, c'est les autres, on a pu, à juste raison, critiquer cette formule en disant que le bonheur, c'est au contraire les autres. Mais le bonheur peut vite devenir un enfer, étant donné la condition pécheresse des êtres humains. Parce que il n'y a pas d'être humain qui n'ait sa somme d'égoïsme, de mesquinerie, de veulerie, d'illusion. Et dans un couple, les deux, comme les enfants aussi, ont leur face ont la face obscure de leur existence et la face éclairée de leur existence. Il y a la noblesse d'un être et ses limites et ses défauts et son égoïsme. Et il ne suffit pas de dire « Oh, je ne la connaissais pas sous ce jour-là, elle est ceci, elle est cela », ou bien « Oh, je ne le connaissais pas de cette façon, il s'est révélé quelqu'un de possessif, d'inquisiteur, d'intolérant, j'étouffe ». Tout cela est probablement vrai. Mais qui que ce soit, quelque être humain que ce soit, a ses mêmes défauts, ou en a d'autres. Et précisément l'expérience d'un couple, c'est de transformer ce qui a pu être à certaines époques une nécessité sociale de constituer une cellule économique, ou une condition de survie de la société pour élever les enfants, ou bien une rencontre codifiée et voulu qui permet à une lignée de se perpétuer et qui tolère des écarts, dans les conditions actuelles de l'existence, cette rencontre d'un homme et d'une femme où l'amour a été valorisé d'une façon extraordinaire et dans une époque où le désir et le désir sexuel a été carrément, quasiment substitué souvent à l'expérience amoureuse, eh bien, il est inévitable que cette relation, construite sur des bases aussi fragiles, un jour ou l'autre, ne se brise, ne se détruise, apparaisse comme sans consistance. Que reste-t-il lorsque un accord scellé sur des bases aussi fragiles s'effrite, si il n'y a pas une ressource supérieure qui permet d'affronter ses difficultés et ses déficits? C'est ça la question. Il y a une erreur initiale, sans doute. L'erreur initiale, c'est de n'avoir pas assez creusé profond l'un et l'autre, l'un pour l'autre, ou du moins de n'avoir pas eu recours à cette fondation qui peut-être a été posée au départ. Alors, vous me direz, mais quelle est-elle cette fondation? Si vous voulez, c'est ce point précis que je voudrais que nous poursuivions dans les semaines qui viennent. À la semaine prochaine.